Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h,
le meilleur de Team Duga.
Bonsoir à tous, c'est parti pour le meilleur de Team Duga sur RMC pendant 2 heures. Les meilleurs moments de la semaine, on vous les propose le samedi, le dimanche soir. Et on est de retour en direct lundi à 18h pour la dernière semaine de Team Duga. D'ici là donc les meilleurs moments avec les débats histoire de Team Duga. Les débats forts pendant ces 4 années passées avec Christophe Dugarry. À 19h30, on reviendra sur Karim Benzema et sa relation compliquée avec Didier Deschamps. À 19h, l'une des actus de la semaine, c'est le coup de gueule de Grégory Coupé, entraîneur des gardiens désormais de Dijon, qui a réglé ses comptes avec son ancien club, l'Olympique Lyonnais. On était également avec le maire de Bordeaux, le nouveau maire de Bordeaux, qui exige le départ des dirigeants du club de foot. Vous entendrez ce moment à 18h30. Et puis Mickaël Youn était avec nous dans Team Duga cette semaine. L'acteur est venu nous présenter son nouveau film, Divorce Club, et a réagi sur l'actu OM, les rumeurs de vente pour un projet mené par Mourad Boudjelal. On y est revenu dans un grand dossier dans Team Duga cette semaine avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco.
Bonsoir Mickaël, quelle chance de te recevoir. Merci mon poulet d'être dans Team Duga.
Mais c'est toujours un plaisir, je suis très très content d'être là, sans plus de commentaires.
Tu te sens un peu seul?
Je me sens un petit peu seul, je peux pas dire pourquoi, ouais. Parce qu'on va pas divulguer ce qui se passe dans cette émission.
T'inquiète pas, nous on le fait.
Ah d'accord.
Duga est confiné depuis 3 mois, mais il n'en est jamais sorti.
Il fait une couvade, il va accoucher dans pas longtemps.
Les gars, c'est terminé. Moi, on me dit viens RMC, je viens. Il y a personne. Je suis tout seul dans un studio avec une bouteille d'eau. Qu'est-ce qui se passe?
Et surtout, en plus, pour parler d'un film sur le divorce en plus.
Ouais, hein, divorce
en plus,
club.
Et puis on va déprimer en plus.
T'en sais quelque chose? Oh bon, non, il est pas.
Oui, oui.
Les deux. Non,
on va pas déprimer.
Oui. Ben oui, oui, on a tous été invités au repas des coquilles un jour ou l'autre.
On y reviendra effectivement sur la sortie de ce film. Et Mickaël, alors j'avais vu la dernière fois que tu étais venu à RMC, tu disais que tu regardais plus les matchs du PSG, que c'était
bah là,
fini.
Bah là, c'est bien parce que j'ai pas eu à en regarder depuis 3 mois.
Oui, mais sinon. Non,
en revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai l'impression que Le Graët a dit que finalement le football français avait choisi la bonne voie. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que supporter, moi, ça m'a manqué de pas voir les matchs français reprendre et de voir tous les autres reprendre que je n'ai pas regardé les autres championnats, je ne les ai pas regardés, mais j'aurais bien voulu aller jusqu'au bout quand même de ce championnat
et que ça reprenne. Voilà. Effectivement, Noël Le Graët a dit qu'il ne regrettait pas, que c'était la bonne décision, même si ça a repris partout ailleurs.
Et vous avez dit quoi, les garçons?
Comme il disait l'autre, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Nous, on voulait que le sport
reprenne ses droits,
mais que ce soit pour l'équité sportive.
Plus, il a dit n'importe quoi.
Non, moi j'ai jamais bougé depuis le début, d'abord pour l'équité sportive. Et ensuite, je pense que c'est un bon message pour montrer que la France repart, quoi. Moi, je trouve que revoir du sport, c'est un autre message. Et ça, on l'a pas envoyé.
Non, mais là, surtout, en plus, les coupes nationales, elles vont se dérouler devant quand même quelques spectateurs, j'imagine.
Oui, mais ça, c'est
bon. Parce que
c'est
on se rend compte qu'on aurait pu décaler un peu les coupes nationales et faire durer le championnat jusqu'au mois d'août et sans doute avoir des qualifiés pour la Ligue des Champions qui soient un peu plus représentatifs que sur une vingtaine
des
de relégués, matchs.
Des vrais aussi.
Tu as entièrement raison, Mickaël, mais ça n'a pas pu se faire parce que. Enfin, ça me paraît à moi assez évident, c'est que chacun a joué sa carte personnelle. Voilà, il y a eu 50 propositions en faites des uns et des autres. Il n'y a eu aucun accord entre eux.
C'était
le bordel. C'est pour ça qu'il y a.
J'ai l'impression que moi, ils ont surinterprété une décision du Premier ministre qui disait bon, évidemment, les championnats de foot ne reprendront pas. Mais quand il dit ne reprendront pas, c'est ne reprendront pas avec des gens dans les stades. Et on aurait très bien pu reprendre à huis clos.
Ah, ça allait un peu plus loin que ça quand même.
Ah bon?
Oui, à ce moment-là. Mais après, c'était un contexte aussi où.
La France
de dramatisation.
Les stades auraient pu attendre.
Voilà, ce qu'il fallait faire, c'était attendre.
Et ne pas écouter la cacophonie.
Il n'y avait pas de test, il aurait fallu beaucoup plus de tests pour les sportifs.
Bon, écoutez, c'est pas grave, l'OM sera en Ligue des Champions.
Ah bah l'OM, on va en parler.
Mais du moins, ça te fait rire en plus, toi.
Mais je trouve ça très beau de ta part, Eric, d'être pour la suite du championnat et donc pour l'équité sportive, sachant évidemment quel est ton passif affectif avec l'Olympique.
Et que l'OM n'aurait pas fini deuxième.
Si, l'OM aurait fini deuxième. Mais je veux dire, peut-être que Lyon aurait gagné 17 points en 3 matchs, on ne sait pas.
Il chauffe, Mickaël. Alors, L'OM. Et donc la vente, le dossier du moment, plein de choses à aborder. Mohamed Bouafsi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Lugas, salut Eric, salut Mika.
Salut Mohamed. Tu vas pouvoir nous donner toutes les infos RMC Sport sur ce dossier. Juste avant, on a plein de choses à aborder. Donc Mourad Boudjelal, on va l'entendre dans un instant. On sera aussi avec Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient, pour nous éclairer sur ces fameux investisseurs qui seraient derrière le projet de Boudjelal. Commençons déjà par ce que l'on sait, ce que l'on a entendu depuis quelques jours. Donc vendredi, aux grandes gueules sur RMC, Mourad Boudjelal, donc le président emblématique du rugby club toulonnais, a annoncé être porteur d'une offre pour l'OM, financée par donc des fonds étatiques et privés du Moyen-Orient, avec l'appui d'un homme d'affaires franco-tunisien très important. Il s'agit donc de Mohamed Ayachi Ajroudi, qui aurait derrière lui donc un groupe d'investisseurs. Il l'a indiqué, ce fameux Mohamed Ajroudi, donc sur une radio tunisienne ce matin. Il a confirmé tout ça, mais il n'a pas confirmé le chiffre qui circule en ce moment de 700 millions d'euros.
McCourt est vendeur, quoi qu'il arrive.
Ça va être le point important.
Parce qu'est-ce qu'il est vendeur? Parce alors, qu'il y a un acheteur, c'est
l'OM dit qu'il n'est pas vendeur. Jacques-Henri Hérault l'a encore répété il y a quelques jours en disant on n'est pas vendeur. Après, Mourad Boudjelal, lui, dit il y a notre offre, il y en a d'autres en même temps. Donc, on sait que ça peut intéresser Franck McCourt quand même.
Qui était son objectif. Il était venu là, lui, pour faire une belle opération.
Exactement.
Compris immobilier, d'ailleurs.
Ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait 700 millions déposés en banque, 300 pour racheter l'OM, 200 pour éponger la dette, 200 pour un futur mercato. Tout ça n'est pas confirmé, mais c'est ce qu'on entend et c'est ce qui excite forcément les supporters marseillais. Mohamed, est-ce qu'il y a des choses à apporter en plus?
Alors, il y a des choses à légèrement corriger dans ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Tout d'abord, ce chiffre, ce montant de 700 millions d'euros a été démenti par plusieurs personnes, et notamment par Mourad Boudjelal il y a quelques minutes, en disant notamment que c'était un chiffre qui était infondé, erroné. Lui n'avait jamais évoqué ça. Et on rappelle aussi que l'OM n'a pas 200 millions d'euros de dettes. Les dettes ont été épongées par Franck McCourt et sont épongées à chaque passage devant la DNCG. Donc aujourd'hui, l'OM officiellement est un club qui arrive avec 80 millions d'euros de dettes, 90 millions d'euros de dettes, mais qui devront être épongés par Franck McCourt. En clair, aujourd'hui, messieurs, la position de Mourad Boudjelal, c'est de dire on a une offre entre les mains, on va transmettre une lettre d'intention. Il a finalement un peu changé son fusil d'épaule. Il disait au début qu'il y allait avoir un montant sur cette lettre d'intention. Finalement, il n'y aura pas de montant. Elle devait arriver aujourd'hui, voire demain, elle arrivera finalement en fin de semaine. Donc, il y a que quelques zones d'ombre autour de ce dossier et on est dans une situation d'expectative plutôt, Jean-Louis, qu'autre chose. On est dans une situation d'attente, sachant que Mohamed Ajroudi s'est exprimé. On ne sait pas, messieurs, qui est le pôle d'investisseurs derrière ce financier. On sait juste que vendredi, le plus grand prince saoudien a démenti auprès d'RMC Sport un intérêt quelconque lié à celui de Mourad Boudjelal. Aujourd'hui, on n'a pas ces réponses-là. On est dans une situation d'attente. On rajoute aussi que l'entourage de Franck McCourt nous a démenti les deux offres évoquées par Mourad Boudjelal, une offre russe, une offre chinoise. Oui. Ça, on nous l'a clairement démenti. Et Mourad Boudjelal, qui est un fin communicant, a dit qu'il démentait le communiqué qui démentait son
exactement
information.
Alors, avant d'avoir votre réaction, juste
déjà,
écoutez.
J'ai déjà mal à la tête.
Ouais, non, c'est franchement, ça va. Pour des businessmen comme vous tous, ça passe.
Ouais, bien sûr.
Écoutez, Mourad Boudjelal, il tenait à préciser que les investisseurs qu'il y avait derrière lui avaient les moyens, voire plus que Franck McCourt.
Si vous êtes candidat à Marseille, il faut que vous soyez avec des gens qui, s'il y a besoin, peuvent être déraisonnables. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, que les gens avec qui je discute et qui veulent investir à l'OM ont des moyens supérieurs à McCourt, oui, bien sûr.
Voilà, donc des moyens supérieurs. Donc ça a de quoi faire rêver les supporters. Dugas, comment tu analyses cette situation?
Non mais je sais pas. Sincèrement, mon Jean-Louis, j'ai essayé de comprendre, de tout comprendre entre les déclarations des uns, les contradictions des autres, les annonces qui sont bonnes, qui sont pas bonnes, télé tunisienne, télé marocaine.
Non mais ce qui radio est simple, c'est que Boudjelal veut racheter le club, oui, et que McCourt pour l'instant a pas donné suite.
Non mais même Monsieur Boudjelal, j'adore ce monsieur, c'est un passionné, il est passionnant. Voilà, mais il voulait racheter Toulon, après il voulait racheter un club de Marseille, c'était Marseille Consola, c'était
Marseille Atlético, l'Atlético de Marseille.
Voilà, l'Atlético de Marseille. Voilà,
maintenant, ça existait, l'Atlético.
Voilà, non, maintenant il va racheter l'OM. Je sincèrement, je l'ai tellement entendu sur mes 40 ans passés dans le foot, j'ai toujours entendu l'OM racheter, toujours Maradona qui devait débarquer, le port bloqué, oui, par une sardine.
Il y a plein de fantasmes autour de l'OM.
Il y en a toujours eu des sardines, le retour de Drogba, voilà, le retour de l'OM. Voilà, je sais pas si ça arrive, ça sera peut-être bien, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes.
Okay,
y a
on est trop loin, d'inconnus. Selon toi.
Bah oui, je peux, sincèrement, je peux pas m'exprimer.
Eric, comment tu vois les choses?
Bah écoute, en observation. Bon, moi, je lui ai posé la question sur la manière. Hein. J'ai été surpris.
Pourquoi sortir dans les médias, en fait? C'est
voilà,
ça qui étonne.
Moi, la question que je lui ai posée, j'ai dit, moi, si je veux acheter quelque chose qui est très cher et qui est convoité et sur lequel j'ai une grosse négociation, je vais de gré à gré discuter avant de peut-être sortir dans les médias. Et donc, je lui ai dit que le fait de sortir comme ça dans les médias, ça mettait une grosse pression sur la direction actuelle, ça mettait beaucoup d'effervescence à Marseille parce que les gens ne parlent que de ça depuis trois jours, et que ça pourrait faire des déçus si ça ne marchait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il nous a dit qu'il avait tenté de rentrer en contact avec Franck McCourt, que ça n'avait pas... voilà, et que c'est à ce moment-là qu'il était sorti du bois. Tu réécouteras bien l'interview, mais c'est voilà, c'était l'explication qu'il nous donnait. Ensuite, ici, il y a tellement d'espoir sur cette annonce que du coup je suis méfiant parce que moi j'ai peur du retour de bâton. Pas parce que Mourad ne serait pas sérieux, mais parce que ça ne dépend pas que de lui, que ça dépend d'abord des investisseurs qu'il y a derrière, et ça dépend aussi de l'envie ou non de Franck McCourt de vendre. Parce que malgré tout, c'est son club, et il fait ce qu'il veut. Tout est à vendre, mais peut-être pas à n'importe quel prix, peut-être pas à n'importe quel moment. Voilà. Et moi j'ai peur que si ça ne se fait pas, pour diverses raisons, hein, tout en étant sérieux des deux côtés, la pression populaire sera telle sur les dirigeants actuels que la saison prochaine peut être très très compliquée. Ici, tu sais ce que c'est, Duga. Beaucoup penseront que c'est à cause de la direction actuelle que ça a capoté. Et il peut y avoir des banderoles dès la première journée jusqu'à la dernière journée de championnat. Oui. Et ça, moi, ça m'inquiète parce que déjà, elle est périlleuse cette saison prochaine avec une Ligue des Champions, avec un calendrier qui va être énorme, avec un effectif finalement qui ne sera pas pléthorique. S'il y a ça par-dessus... voilà, moi je j'ai peur pour mon club. Maintenant, si ça aboutit et qu'il y a énormément de moyens, je peux te dire que là, ça, sur le Vieux-Port, on va faire la chenille. Hein.
Vous allez pouvoir réagir au 32-16, bien sûr, supporter Marseille. On va vous donner la parole.
Et je ne ferai pas la locomotive.
Juste avant, Georges Malbruno est en direct avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir.
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 Est-ce que vous connaissez, pour débuter, Mohamed Ayachi Ajroudi, qui serait donc le représentant d'un groupe d'investisseurs donc prêt à racheter l'OM?
Non.
D'accord, vous ne le connaissez pas du tout.
Merci, au revoir.
Vous avez dû découvrir son nom, j'imagine, en même temps dans la presse. Je vous ai vu parler d'une autre offre concernant l'OM, en dehors de celle de Mourad Boudjelal.
Voilà. Alors, je connais quelqu'un d'autre qui est visiblement associé à cette offre-là de Mourad Boudjelal. Et puis, j'ai appris qu'effectivement, un oligarque russe avait fait une offre il y a 15 jours sur insistance, sur proposition de Vladimir Poutine, un oligarque russe dont je ne connais pas le nom et dont les comptes ont été gelés aux États-Unis. Et voilà, donc il y a cette offre-là qui a été faite. Il y a très vraisemblablement l'offre de Boudjelal. Ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, vous avez le communiqué qui a été publié par l'équipe Boudjelal est suffisamment vague sur l'identité des investisseurs. On a parlé d'investisseurs étatiques, privés, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'énergie. Bon, je trouve derrière, c'est plutôt saoudien avec éventuellement une participation émirienne. Ça fait sens dans la mesure où l'Arabie Saoudite, moi je l'ai écrit l'an dernier, veut acheter un club de football en Europe pour concurrencer son voisin et ennemi, le Qatar. Pour ces gens-là, eh bien, il est inconcevable que le championnat de France de football se résume à une course en tête du PSG et donc par conséquent à une vitrine offerte au Qatar. Et donc, il y a quelques années, le prince Walid bin Talal qui s'était monté intéressé par l'Olympique de Marseille. Au printemps, il y a eu ces rumeurs, probablement un peu infondées, mais qui reposaient quand même sur une rencontre entre un émissaire du prince Walid et puis McCourt. Voilà, et donc là, visiblement, il y a quand même il se passe des choses. Alors après, il y a un jeu assez intelligent de la part de McCourt, c'est de dire que le club n'est pas à vendre, ce qui permet de faire monter les enchères. Un jeu aussi intelligent de la part de Mourad Boudjelal et de son équipe, c'est de compter un petit peu sur la pression populaire pour à Marseille pour pour amener McCourt à sortir du bois, parce qu'aujourd'hui c'est ça le but du jeu, c'est de forcer le propriétaire de Marseille à se positionner par rapport à une offre qui, même si on dit qu'il n'y a pas eu de chiffres, il y a dû quand même avoir quelques chiffres qui ont circulé. Donc voilà. Ouais.
Vous nous expliquez que les Saoudiens viendraient à Marseille pour concurrencer les Qataris du PSG. En gros,
exactement.
C'est ça.
Exactement. Là, j'en suis sûr et ça fait sens. Et voilà, parce que.
Mais expliquez-nous pourquoi ça fait sens. Parce que pays qui ne s'aiment pas, voire sont en conflit, on ne les imaginait pas régler ça sur un terrain de foot. Vous voyez, si je schématise un peu.
C'est la diplomatie douce. Hein.
Bah voilà,
c'est comme ça qu'ils s'affrontent.
Il y a plusieurs raisons. Le Qatar, comme vous le savez, donc, a acheté le PSG il y a une dizaine d'années de cela. Ça lui a donné une formidable vitrine dont il se sert. Et depuis 3 ans, l'Arabie Saoudite, les Émirats sont en guerre avec le Qatar, et les Saoudiens, pour essayer de contrer cette offensive du Qatar en matière de sport, veulent se payer un club en France, comme les Émirats Arabes Unis en ont un en Grande-Bretagne. C'est aussi une question d'ego de la part de ces pétromonarques qui, à travers ça également, veulent mobiliser leur jeunesse. Et l'Arabie Saoudite, il y a une jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent plus ou moins, mais qui sont des sportifs devant leur écran de télévision. Donc, tout ça fait sens. Ils ont des moyens. Or, bien, l'exemple du PSG montre quand même que le Qatar, derrière, a mis beaucoup de moyens, a fait du PSG une grande équipe, même s'ils n'ont pas encore été champions d'Europe. Oui. Et par conséquent, l'Olympique de Marseille, en plus, avec une particularité, je dirais, locale. Marseille, c'est la Méditerranée, c'est l'autre rive de la Méditerranée, c'est le sud, c'est une ville où il y a une vraie identité, culture footballistique. Donc, voilà, c'est un club d'ailleurs que le Qatar voulait acheter il y a une quinzaine d'années, mais un industriel français avait conseillé alors à l'émir de ne pas l'acheter parce que c'est un club difficile, etc. D'accord. Donc voilà, tout ça fait sens. Après, on est dans une période aussi où, quand même, d'après ce que j'ai compris, le club n'est pas en extrêmement bonne situation financière. Donc, est-ce que le propriétaire aujourd'hui a intérêt à temporiser éternellement ? Est-ce que la valeur de Marseille sera supérieure dans 6 mois à ce qu'elle est aujourd'hui ? J'en suis pas sûr. Donc d'accord. Là, on est dans ce rapport de force aujourd'hui.
Très bien. Dugas, tu voulais une dernière question ?
Non, je me demandais pourquoi c'est pas l'État saoudien alors qu'il investit directement.
Comme le Qatar a fait.
Comme le Qatar a fait, quoi.
Après, le Qatar ne l'a pas vraiment fait avec le PSG. Ils sont pas allés.
C'est une très bonne question parce que le Qatar l'a pas fait. C'est Qatar Sport Investment qui n'est pas l'État du Qatar, mais qui est le Qatar. Et ce qui est évident, c'est que si des investisseurs saoudiens investissent à Marseille, in fine, il y aura l'aval ou le refus du prince Mohammed bin Salman, qui est le prince héritier, qui est l'homme fort de l'Arabie Saoudite. Mais on trouvera toujours un véhicule, enfin financier, pour dire c'est saoudi, etc., etc. Mais ce sera l'État saoudien ou émirien qui sera derrière. Donc voilà, mais après, ce sont des artifices.
Merci beaucoup, Georges Malbruno. Merci pour votre éclairage.
Merci, Georges. Merci beaucoup. Donc là, l'OM est à deux doigts, mais à deux propositions. Une d'un Russe mandaté par Poutine et l'autre d'un Saoudien mandaté par
MBS.
On le sait, c'est vive la démocratie dans le nouveau foot.
Il n'y a pas besoin de chercher loin les informations sur ces points-là. Les Qataris ne peuvent pas investir en France. Il y a le PSG, ils ne peuvent pas investir sur d'autres pays européens. Les habitants de l'Émirat, j'allais dire les habitants de l'Émirat Arabe Uni, les Émiriens, en fait, eux ont Manchester City avec plusieurs clubs européens et ne peuvent pas investir en Europe. L'Arabie Saoudite s'était focalisée sur Newcastle. Là, les problèmes existent autour de Newcastle, autour du rachat de Newcastle. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite et très peu des autres pays, parce qu'il n'y a que ce pays-là au Moyen-Orient qui est capable d'acheter un club européen.
Michael, en tant que supporter du PSG, tu verrais d'un bon oeil. Voilà.
Ah non, bah évidemment, ce serait super. C'est plus il y a d'équipes fortes, évidemment, plus le championnat est attractif, plus c'est agréable de regarder les matchs. Là, je le vois pas du tout en termes de supporter du PSG. Je le vois en tant qu'amoureux du foot français, évidemment, ce serait super. Maintenant, c'est une vraie partie de poker menteur. J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que tout le monde ment ou tout le monde avance à couvert. On sait pas s'il y a vraiment une proposition chiffrée. On sait pas si McCourt, il est vraiment vendeur. À mon avis, si on lui fait une belle proposition, il vendra, mais les autres, ils veulent pas exactement dire quelle est la proposition. En tout cas, faut se dépêcher parce que il a raison, Eric. Ça va faire du mal à l'équipe, ça. Ça va faire du mal. Les supporters vont nourrir des frustrations. Et c'est dommage parce que si tout ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça fait beaucoup de mal pour pas grand chose.
Et après, l'autre question qu'on pourra aborder aussi dans les jours qui viennent, si ça se concrétise, c'est est-ce que Mourad Boudjelal sera aussi à l'aise dans le foot qu'il l'a été dans le rugby?
Oh, après, moi, je le trouve brillant, ouais. Mourad. Vraiment, je le trouve brillant. Je le trouve, comme Dugas disait, il est passionnant, il est passionné. C'est pas la même chose, d'accord, le foot et le rugby. Mais en tout cas, c'est un mec qui sait faire avec le sport professionnel.
Voilà, on n'a pas la réponse, mais on a quand même des éléments de réponse. Oui. C'est-à-dire la gestion de club de sport, il la connaît, même si c'est pas la même économie. Le charisme, il a.
Il est meilleur que Jean-Michel Jarre pour diriger.
Il a l'âme d'un patron. Voilà. C'est important d'avoir un mec qui a du charisme, un patron qui sait.
Voilà,
joueur,
la poigne par rapport aux joueurs et tout, il l'a. Il a managé des sangliers pendant je sais pas combien d'années, donc c'est plus facile, tu vois.
Avec que des tops.
C'est pas la même chose quand même. Morgane, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bon, ça te plaît, Boudjelal, ce projet, etc.
Ben, ça va être compliqué pour ma cour de garder le club maintenant, parce que déjà qu'à Marseille, on supporte plus Harry Potter et la Merloc. Là, aujourd'hui, avec ce qu'on nous annonce, je vois pas quel intérêt aurait ma cour à garder le club, étant donné que financièrement, il ne peut plus investir. Donc, sportivement, il peut pas nous faire progresser. L'année qui arrive, si on accroche une troisième place en Ligue des Champions, c'est déjà un exploit. Tout en essayant de se qualifier encore pour la Ligue des Champions l'année d'après avec 15 joueurs, ça va être compliqué. Ils annoncent des moyens supplémentaires à ma cour, donc je vois pas quel intérêt aurait Boudjelal de mentir là-dessus. Et pour répondre à la question de Jean-Louis tout à l'heure, on peut pas faire pire que héros à la présidence du club. Boudjelal, je pense que c'est l'homme idoine, mais ça serait vraiment quelqu'un de bien dans le club sudiste de l'OM. Et je vois, à part de l'immobilier, je vois vraiment pas quel intérêt à ma course, s'il récupère ses billes, de garder le club aujourd'hui, en sachant que dès la première journée au stade, s'il vend pas le club, va y avoir le feu. Directement, va y avoir le feu. Parce qu'on nous annonce Boudjelal, mais apparemment, il y a deux autres offres qui, de toute façon, apparemment, ont plus de moyens que lui. Lui, aujourd'hui, n'a plus la capacité d'investir sportivement. Donc, à part si c'est pour de l'immobilier, il n'y a pas besoin de l'OM pour ça. Je vois pas quel intérêt il a à garder le club. Héros, ça va être une année horrible pour lui au stade. Ça va continuer comme l'année dernière, si ce n'est pire, parce que refaire la même saison que l'année dernière qui calmait les ardeurs envers Héros, ça va être compliqué. Donc, il a que des points positifs à partir du moment où, bien sûr, il récupère son argent, parce que c'est pas non plus gratuitement qu'il va lâcher le club. Mais je vois pas quel intérêt aujourd'hui il aurait envers les supporters, envers le club et même sportivement de garder l'OM.
Oui, mais peut-être qu'il n'a pas l'offre qui lui permettrait de récupérer ses billes. C'est peut-être ça l'incertitude pour l'instant.
Peut-être parce que McCourt, on lui prête beaucoup de défauts, mais c'est pas un sale type. Et donc, je pense que si les propositions ne sont pas sérieuses, il va pas sacrifier l'Olympique de Marseille.
Mohamed, merci beaucoup.
Merci à vous,
pour toutes ces infos. Évidemment, toutes les évolutions sur rmcsport.fr.
Voilà pour ce débat autour de l'OM. On revient dans une seconde dans le meilleur de Team Dugas avec le nouveau maire de Bordeaux. Il a exigé le départ des dirigeants actuels des Girondins de Bordeaux. Il était l'invité de Team Dugas mardi. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Dugas.
Le meilleur de Team Dugas, c'est également le meilleur du journal moyen. Ce sera tout à l'heure, 18h45. D'ici là, le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Urmic, était notre invité mardi dans Team Dugas. Gros coup de gueule poussé contre les dirigeants actuels des Girondins de Bordeaux. Il était l'invité de Christophe Dugarry, Éric Dimeco et Franck Leboeuf.
Bonsoir, monsieur le maire.
Félicitations.
Bonsoir, monsieur Dugarry.
Merci d'être là dans Team Dugas. C'est un honneur de vous recevoir. Déjà, félicitations pour votre élection. Déjà, depuis le temps que vous étiez dans l'opposition, j'imagine que ça va être un super moment pour vous, j'imagine.
Oui. J'attendais depuis un moment ce basculement de la ville de Bordeaux et voilà, je suis heureux que ça se soit passé dimanche.
Bon, super. Dites-moi, président, on fait tous à peu près le même constat. Alors, les gens un petit peu plus proches du club. Le club est en énorme difficulté actuellement. Vous avez franchi un cap dans vos déclarations il y a quelques jours de ça. Je crois que c'était hier ou avant-hier dans l'équipe, en disant que vous vouliez la démission du président Longuepé. Vous êtes qualifié d'ingérant ou d'ingérence de la part des autres présidents. Qu'avez-vous à dire là-dessus?
Oui, je viens de voir effectivement le syndicat du club dénonce l'ingérence du gouverneur de Bordeaux. J'en veux dire qu'il va falloir qu'il s'habitue. La seule ingérence qui supporte jusqu'à présent, c'est l'ingérence financière, c'est-à-dire qu'on les aide. Vous citiez le Hayon, c'est un bel exemple quand même d'une ville qui aide sérieusement son club de football. Donc ça ne les dérange pas. Mais que le maire puisse avoir un point de vue sur l'ambiance qui règne actuellement entre le club et les supporters, ça ne supporte pas. Mais il faudra qu'il s'habitue. Moi, je ne peux pas accepter que le président du club se soit mis à dos les supporters, les ultramarins. On a la chance, en plus à Bordeaux, d'avoir avoir un club de supporters plutôt exemplaire. Ils ont réussi à se les mettre à dos. Moi, j'étais samedi avec eux quand ils ont manifesté sur la place de Valon. Ils étaient 3000. Bon, il y a un malaise. Alors, si M. Longuepé et Kingstreet sont incapables de déchiffrer le malaise, moi, je vais les aider à le déchiffrer.
Justement, vous avez aussi sollicité pour pouvoir parler au patron de Kingstreet. Alors, jusqu'à présent, il a toujours été représenté par quelqu'un. Vous voulez lui parler en direct. L'ancien maire avait aussi essayé de le faire. Il a eu des réponses dans la presse comme quoi il aurait droit à pas grand chose si ce n'est éventuellement à une lettre écrite de la part de Kingstreet. Est-ce que vous pensez vous pouvoir parler au patron de Kingstreet pour lui expliquer la situation et pour dire que ça ne peut plus durer?
Je pense que pour Kingstreet aux États-Unis, les Girondins de Bordeaux, c'est peanuts. Et que le maire de Bordeaux, c'est vraiment peanuts. Je pense que dans un premier temps, ils ont un représentant local qui s'appelle M. Herman, que je ne connais pas. Donc moi, je vais demander à rencontrer M. Herman très rapidement pour voir s'il y a moyen d'avancer. D'abord, pour connaître ses intentions sur le devenir du club. Est-ce qu'il est en vente, comme certains le disent? Est-ce qu'il est à la limite du dépôt de bilan, comme d'autres le disent? Bon, je pense que j'obtiendrai des informations de la part de M. Herman. Si
Et vous comptez toujours lui demander le départ de Frédéric Longuepé?
Oui, sauf si m'apporter des assurances en me disant qu'il y a un nouveau Longuepé qui existe et si c'est pour remplacer Longuepé par un Longuepé bis. Je veux pas trop personnaliser, si vous voulez. Maintenant vous êtes maire, vous avez peut-être plus de distance, mais je veux pas personnaliser autour de la personne de M. Longuepé. Je veux pas qu'il me dise ok, M. Longuepé partira et on va vous mettre un autre qui sera un Longuepé bis et ça sera pareil. Je veux vraiment avoir des assurances qui mettent un président du club qui n'est pas l'arrogance qu'a M. Longuepé vis-à-vis des supporters et qui ne commette pas les maladresses qu'a commis M. Longuepé. Si M. Longuepé, s'il y a un nouveau Longuepé qui peut naître de sa personnalité, ce dont je doute fortement, voilà, je veux pas donner l'impression, mettez-vous à la place du nouveau maire qui commence à couper les têtes. Donc, voilà, actuellement, j'entends en tout cas la revendication des ultramarines qui disent ça suffit, il nous a suffisamment maltraités, on veut son départ. Donc, je vais me faire quand même un peu le porte-parole de ce malaise en me disant que un actionnaire comme Kingstreet ne peut pas se payer le luxe de se mettre à dos en même temps et les supporters du club et le maire de la ville. Je trouve que ça fera un peu difficile et un peu désordre. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné le maire doit un peu taper du poing sur la table pour que la situation ne dure pas et puis qu'on envisage aussi le modèle économique du foot à un moment donné c'est le rôle des politiques, même si les autres ne le supportent pas, c'est quand même le rôle des politiques de taper du poing sur la table.
Justement, monsieur le maire, par rapport à ça, quelles seraient vos prérogatives par rapport à
qu'est-ce que vous pouvez faire en fait?
Qu'est-ce que vous pouvez faire
sur le plan juridique, pas grand chose, mais bon,
sur le plan populaire,
sur le plan de la discussion, je pense que beaucoup d'acteurs du monde footballistique et de supporters sont actuellement assez effrayés par les dérives du foot business. Moi, ça me paraît, le modèle économique du foot business, il est en train de se casser la figure. J'ai bien vu des déclarations qui avaient été faites au moment où Kingstreet a racheté M6, le club du Girondin, notamment par le président de Lyon, Jean-Marie Aulas, qui disait quand même le foot est une activité particulière. Et il pensait que ça pouvait s'avérer totalement incompatible à les objectifs de fonds d'investissement qui cherchent à tout prix à valoriser rapidement, 4 ou 5 ans, un investissement quoi, qui ne se situe pas du tout dans la stabilité. Je pense que le monde du foot a aussi besoin de stabilité. Et j'ai lu Christophe Lillian qui avait été ravi de lire la lettre que vous aviez la lettre ouverte hein, que vous aviez faite, et je me suis trouvé quand même énormément de proximité avec la sévérité de votre propos. Ça me fait le cri du cœur de Christophe Dugarry quand vous dites les Girondins de Bordeaux se meurent. Je pense que vous savez de quoi vous parlez.
Un
stade de 3 quarts vide. Moi, j'étais contre la construction de stade de 43 000 places, alors qu'on en avait un de 33 000 qui marchait très bien, qui était en cœur de ville. Celui-là, il est au 3 quarts vide. Donc, quand j'ai lu ça dans votre cri du cœur, je peux vous dire, je, me suis dit, ah ben ça va, ça fait plaisir encore de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au foot et qui ont quand même une vision un peu plus moderne.
Ah, Dugarry a joué au sport, monsieur le maire.
Ah bah ouais, exactement. Moi, je me demandais s'il n'était pas conseiller au culte. Ouais, c'est pas possible. Vous pensez tout pareil.
Non, mais dites-moi, monsieur le maire, vous savez quand même, alors je suis ravi, oui. On partage beaucoup, beaucoup d'idées. Je suis ravi que vous rentriez comme ça dans la bataille en essayant de sauver notre club, oui. D'être derrière les supporters. Mais vous savez que ça va être quand même très compliqué parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Il y a eu le changement de logo, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'il y a des problèmes entre les supporters et la direction. Et là où ça aurait pu être un petit peu pacifié avec l'abandon du changement, du logo et tout ça, aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Donc on voit quand même que c'est compliqué, ça va se tirer. Aujourd'hui, les supporters veulent à tout prix que longue épée parte et c'est non négociable. Donc aujourd'hui, la situation est très très difficile.
Oui, c'est la provoque.
Oui, c'est ça, c'est la provoque.
Les journaux, moi, quand on avait vu M. Dagrossa, donc, qui avait été GACP, donc qui a racheté le club aux Girondins, j'ai bien compris très vite que la seule chose qui l'intéressait, c'était le nom Bordeaux. Il nous a dit, moi, je vais vous vendre Bordeaux en Chine, partout, etc. Ce qui l'intéressait, c'était la marque Bordeaux. Mais c'était, à aucun moment, on l'a interrogé sur le projet sportif. Moi, je m'en étais plein auprès d'Alain Juppé. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que ce gars-là ne nous parle pas de son projet sportif? Il dit, mais vous verrez, monsieur, mais ça viendra, ils en parleront. Je lui ai dit, mais il faut en parler maintenant. Où sont les engagements de ces gens-là de s'inscrire durablement dans la vie d'un club de football qu'ils ne connaissent pas, les Américains, ils ne connaissent pas le football français. Donc Bordeaux, par contre, effectivement, ça les fait scintiller. Il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait de Bordeaux. Mais bon, voilà, c'était la marque.
C'est pour ça que le logo aujourd'hui officiellement a changé des Girondins de Bordeaux. Et sur le logo, il n'y a plus marqué Girondins de Bordeaux. Ça n'existe plus.
Ce qui existe. Ouais, mais ça, moi, je trouve ça.
Il y a marqué Bordeaux Girondins.
En gros Bordeaux
et Girondins en dessous.
Alors, monsieur le maire, question d'Éric Dimeco.
Oui, monsieur le maire, pendant la campagne, vous avez rencontré les supporters. Est-ce qu'ils sont allés faire le tour un petit peu des candidats pour exprimer leurs problèmes? Et donc, du coup, si vous les avez rencontrés, aujourd'hui, vous êtes un peu, du coup, leur porte-parole, finalement?
Non, je les ai rencontrés, je pense qu'ils sont assez grands. Moi, je veux pas. Vous savez, je veux veiller à ce qu'il n'y ait pas une récupération politique. Hein, franchement, c'est pas du tout mon.
Monsieur le maire,
je me sens concerné, mais je veux les mettre à l'aise parce que je pense qu'ils ont des opinions politiques différentes, variées, heureusement, qui ne sentent pas. Alors, en tant que candidat, c'est délicat. En tant que maire, ça me sera plus facile parce que bon, je suis le maire de tous les Bordelais, donc de tous les supporters, et j'ai l'impression que tous les supporters sont pour le départ. Donc, je me ferai leur porte-parole.
Voilà donc pour l'énergique Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux. On revient dans une seconde dans le meilleur de Tim Dugas avec le journal moyen.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
Après 19h dans le meilleur de Tim Dugas, Grégory Coupé est remonté contre son ancien club, contre l'Olympique Lyonnais. Lui qui est désormais l'entraîneur des gardiens de Dijon. Il a expliqué les nombreuses incompréhensions avec le staff en place emmené par Rudy Garcia. On y est revenu dans la semaine dans Tim Dugas et on vous propose ça après les infos de 19h. Tout de suite, c'est le journal moyen.
À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC, un club de Ligue 1 dont le groupe vit bien. Et oui, c'est important. Le groupe vit bien, quoi. Ah oui. Ça, c'est bon, t'es champion derrière. Ouais. J'ai pensé à toi, Dugas, hier en regardant Barça Atlético de Madrid. Je vais t'expliquer pourquoi.
Plus que ça, tu penses très souvent à moi.
Ouais, mais là, au-delà de ce match. Normalement, en regardant le Barça Atlético, j'ai pas forcément de raison de penser à toi.
Non,
mais voilà, je pensais à toi. Et puis Mourad Boudjelal, lui, on pense pas à lui, mais il pense pour nous, il est partout, et il parle pour nous, et il est en pleine forme. Le président héros, président de l'OM, toujours l'OM, annonce une prolongation. Bonne nouvelle, président.
Présentation officielle de notre première recrue estivale. Alvaro Gomez.
Oui, bah, très bon joueur ce Alvaro Gomez. On attend ses performances avec impatience.
C'est pour ça qu'il a prolongé.
Il est aussi fort qu'Adil Ramzi. C'est le 346e journal moyen de l'histoire de Team Liga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aygouin.
Tony Parker vous a parlé de Thierry Henry, son copain, c'est ça, de son expérience à Monaco, du manque de temps. Mais le mieux pour parler de tout ça, du temps et du manque de temps, c'est Thierry Henry. Ben oui.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Voilà, c'est pour ça qu'on
a dû le mettre à Tony.
Il n'y avait pas un Belge qui parlait comme ça.
C'est Van Damme.
Bravo.
Bah, bravo, Titi. C'est pour ça qu'à Monaco, c'était un peu compliqué. On débute avec une ville, Dugas. Avec ta ville, Dugas. Oui, ta ville.
Buenas tardes.
J'ai la pêche.
Muy bien, muy bien.
Et avec vous.
Muchas, muchas.
C'est la super pêche.
Muchas gracias.
Ah, voilà, c'est les trois légendes de Bordeaux dans un même jingle finalement. Alain Juppé, Pascal Obispo et Christophe Dugarry. J'ai pas la pêche, j'ai la super pêche. Donc hier, vous receviez dans Team Dugas Pierre Urmic, le futur.
Ah, mais c'est Bordeaux, sa ville. Je croyais que c'était Barcelone. Là.
Bah, moi aussi, j'étais parti sur. Pourquoi il parle en espagnol?
Juppé. Pourquoi il parle espagnol
Juppé,
alors
bah, parce qu'on n'est pas loin quand même, tu vois.
Ah, d'accord.
Pierre Urmic dans Team Dugas hier, le futur maire de Bordeaux, il vient d'être élu maire, mais toi, Dugas, tu le vois déjà beaucoup plus haut. Tu lui prédis une énorme carrière. Tu le félicites pour son élection, et là, c'est le drame.
J'attendais depuis un moment ce basculement de la ville de Bordeaux, et voilà, je suis heureux que ça se soit passé dimanche.
Bon, super. Dites-moi, président.
Oui, bah oui, président, carrément. Objectif 2022, Dugas. Et en plus, Dugas, mais tu y crois vraiment, tu insistes.
Une dernière question, président. Avez-vous des présidents, pardon, monsieur le maire?
Eh oui, président. T'as trop président depuis 4 ans dans le team Dugas, tu n'en peux plus des présidents.
Ah, mais on a changé 3 fois de patron en 4 ans déjà, RMC. Donc, rien que ça, j'ai mal à la tête.
Oui, bah, c'est peut-être ta faute. Hein.
Alors, d'accord, okay. Bravo au futur maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Première interview dans team Dugas, premier journal moyen. Bravo.
Le modèle économique du foot business, il est en train de se casser la figure. Mmh. J'ai bien vu des déclarations qui avaient été faites au moment où King Street a racheté M6, le club des Girondins, notamment par le président de Lyon, Jean-Marie Aulas.
Oui, bah vas-y, ça passe. Oui, Jean-Marie Aulas.
On l'avait pas voulu.
Journal moyen. Bienvenue, monsieur le maire. Voilà.
Tu vois, c'est la différence entre toi et moi, entre toi et nous, parce qu'on avait tous remarqué, on avait rien dit.
Oui, c'est pour ça. Mais merci de ne pas intervenir, moi, ça me permet de faire le lendemain.
C'est aussi ce que je me suis dit.
Merci, Jean-Louis. Merci. Sans transition, direction à la deuxième ville de cœur de Christophe.
Voilà.
Barcelone. On est chez toi, Dugas, là.
Oui.
J'ai regardé hier Barcelone, Atlético de Madrid, match sur Bein Sport, commenté par Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Tu t'entends bien avec Omar, Dugas ?
Oui, il est gentil, Omar, Canal. Il est très gentil.
Il est plutôt rigolo comme mec.
Oui, oui.
Et vous avez des points communs, un point commun, sur le premier but de Diego Costa contre son camp. Je me suis cru dans Team Dugas. Je voyais Jean-Louis qui disait arrêtez, c'est trop et tout. Centre du Barça, Diego Costa ferme l'entrejambe. Et le ballon est dévié et va dans le but. Il ferme l'entrejambe. Et là, on n'est pas loin d'être dans Team Dugas avec Omar.
Ah oui, c'est vrai. Un but assez étrange. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ce muscle-là qui, à mon âge, il pond un peu. Non, c'est un peu mou. C'est pas aussi dur que Diego Costa peut l'obtenir. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, c'est un secteur de la jambe que ça s'est détérioré. Avec le passage du temps.
Voilà, c'est Omar Da Fonseca. Je me suis dit. J'ai fermé les yeux, j'ai dit à ma femme, mais c'est Team Dugas là, qu'on est en train d'entendre. Voilà. Bravo Omar, c'est bien. Omar, excellent. Il est critiqué parfois, je comprends pas pourquoi. Il est bon, Omar, dans le fond de ses cas.
Ouais, parce que des fois, on comprend pas toujours ce qu'il dit, mais il le fait exprès. Donc voilà, voilà.
C'est fleuri. Quoi.
Il met du gaz, ça change un peu. Ah, voilà, c'est différent. Et voilà. Joli but de Diego Costa au passage. Petite Diego Costa là, magnifique.
Le contre son camp ?
Bah oui. Oui, joli ce but, c'est un joli but contre son camp.
Double contact.
Bah ouais, c'est magnifique. Sans transition, direction rapide, Faro. Au Portugal. Pourquoi ? Parce que l'OM est parti en stage au Portugal. Et attention, alors là, alerte, le groupe vit bien. Vous allez analyser ça, vous, spécialiste du sport et de la communication. Surtout Jérôme Rotten, qui est très actif sur Twitter, qui répond et qui dialogue avec les supporters régulièrement.
Oui, de très bons dialogues.
Jérôme, tu me régales au passage, hein, mon Jérôme. Le coach de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, lui aussi est très actif sur les réseaux sociaux. Il a publié dans l'avion, donc entre la France et le Portugal, l'avion de l'OM, un diaporama. Il s'est fait un petit plaisir. Il a pris en photo, un par un, tous les membres de son staff qui faisaient un gros dodo dans l'avion. Je crois qu'on voit même Morgan Sanson qui est crevé, endormi. Et il publie un petit message, André Villas-Boas, les effets de la reprise. Et oui, ils ont repris, c'était parfois un peu dur. Vous pouvez en témoigner, Jérôme, Franck et Dugas. Après 2 mois de confinement,
ça pique.
Ça vous est jamais arrivé d'ailleurs, vous, de jouer en activité, 2 mois d'arrêt total?
Non, c'était vraiment que tu sois blessé, mais sinon non.
Ouais. Et les supporters marseillais témoignent sous sa publication sur Instagram en disant ce coach est extraordinaire, le groupe vit bien, il est chambreur, il est actif sur les réseaux sociaux, c'est gagné, c'est bon, c'est fait pour l'OM, Dugas. Ce genre de communication, c'est positif, c'est bien.
Bah, c'est positif, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre?
Non, mais c'est bien. Je vois pas Rudy Garcia, si tu veux prendre un par un les joueurs de l'OL et le publier sur Instagram et les chambres. C'est deux styles différents, voilà, chacun son style.
Oui, non, mais c'est toujours bien. De toute façon, à l'OM, on sait que ça se passe bien. Il y a une vraie bonne relation. Pour preuve, l'entraîneur a prolongé alors que ça devait pas se faire. Donc, oui, c'est des bons moments. Voilà, ça paraît pas être trop truqué non plus. Donc, c'est plutôt un bon moment,
On est sur l'OM, jingle l'OM, ça nous manque.
Allons, droite.
Oh bon. Il va falloir mettre des sous.
Oh non. Quand on voit tout ce qui se passe, ce jingle, je trouve, est magnifique. Donc, je vous fais le contexte. On n'a pas arrêté d'entendre Mourad Boudjelal sur son projet de rachat de l'OM. C'est il est même venu dans le Super Moscato Show pendant une demi-heure, expliquer le projet, etc. Il a une rubrique sur le site qui s'appelle Rugby Rama. Il parle de rugby.
Il est bon.
De façon un peu décalée, d'accord. Il y a un projet en rugby en ce moment de rachat qui est similaire à celui de Boudjelal avec l'OM. Christophe Dominici veut racheter Béziers.
Ouais.
Il a beaucoup parlé. On l'a beaucoup entendu dans les médias.
Dans le Super Moscato.
Il est venu une demi-heure dans le Super Moscato Show. Il nous a dit on a beaucoup d'argent et voilà, il s'exprime publiquement. Étonnant, les conseils de Mourad Boudjelal dans cette chronique à Dominici qui veut racheter Béziers, sachant que Mourad, lui, veut racheter l'OM. Camoulox.
Alors moi, d'abord, je voudrais dire que je suis très choqué par ces méthodes qui consistent à déclarer qu'on veut acheter un club. Ce genre de choses, normalement, ça sort pas dans la presse. On le garde en catimini. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes, Christophe? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Si tu veux racheter le club de Béziers, tu le gardes et tu parles directement au propriétaire de Béziers. Pas la peine de s'étaler dans les médias, Christophe. Pas la peine, c'est indécent.
C'est indécent.
C'était quand,
ce que
c'était
fait
quand, ça
là, c'était quand. C'était publié à minuit hier soir. Aujourd'hui, là, c'était publié pour mercredi.
C'est génial.
Ah, non, mais là, alors par contre, c'est génial. Mais alors, si c'est, enfin, c'est vrai, oui, c'est
non,
vrai.
Mais c'est du second degré.
Ouais, ça joue. Il fait beaucoup de gags sur Christophe Dominici.
Ah ouais, parce que ça m'inquiète. Ça m'inquiète sur la santé mentale de Morad.
Non, c'est du second degré. Il fait exprès.
Ah d'accord.
C'est pour ça que c'est drôle.
Morad fait beaucoup de gags sur Christophe Dominici sur ce site-là.
Non, j'ai rien compris.
T'imagines, t'es pas au courant de tout ce qui s'est passé et t'es pas au courant de l'esprit de la chronique.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup repris là aujourd'hui cette phrase.
Au début, j'étais pas au courant. Oui, t'as dû me l'expliquer. Ouais. Moi, je me suis dit, mais c'est comme du gars, il est complètement fou.
Alors, il est.
Ah ouais, voilà.
D'accord. Alors, c'est toujours que à la Mourad Boudjelal, on connaît bien sur RMC. Il te dit que Mourad de Toulon, sa chronique, c'est pas lui. Hein, c'est Mourad de Toulon. C'est très ironique et second degré.
Bien sûr,
d'accord.
Mais en fait, quand moi je le suis depuis tout le temps, il fait passer ses messages et c'est quand même véritablement Mourad Boudjelal. Hein,
le truc, c'est que ça fait pas sérieux en fait.
Bah, t'es
en plein, t'es en pleine vente.
C'est le moment de faire des blagues.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais il a toujours fait des blagues, Mourad. Même quand ça n'allait pas.
Tu veux racheter le club en France, le poste le plus important.
Ouais, et enfin, t'es pas obligé de faire une tête d'enterrement et d'être automatiquement sérieux non plus.
T'es pas non plus obligé de mettre une plume dans le cul et un nez rouge.
Non, mais c'est pas le cas. Mais il le fait. C'est un truc qui est très suivi par les rugbymen, Mourad de Toulon. Et moi, je suis parce que j'ai un copain rugbymen qui m'en parle à chaque fois parce que il n'arrête pas de chambrer Christophe Dominici. Et donc voilà, mais ça fait partie de leur monde. Alors c'est vrai que si ça sort du truc, tu comprends plus, mais bon.
Dans leur monde, c'est bien.
Dans leur monde, c'est bien.
Monde merveilleux.
Et Boudjelal, il est avec le monsieur aussi là, le Tunisien aussi,
oui.
Ils sont ensemble.
Ah, je vous dis, bien sûr.
Ouais. Alors, on va pas en parler de l'article de ce monsieur là qui a présenté le projet.
Si, on peut le faire si tu veux.
Parce que ça m'a fait un peu peur quand même ce que j'ai lu.
Bah, ça doit te parler, un projet très méditerranéen.
Ouais, non, mais surtout c'est un projet politique, c'est un projet communautaire.
Ah non, il dit que c'est pas politique et que c'est pas justement communautaire. C'est tout le contraire qu'il dit dans l'interview.
Ah, bon ah d'accord.
Mais bon, okay, on pourrait y revenir. Là, on n'a pas le temps parce qu'il faut lancer la pub.
Je comprends pas le second degré et puis en plus je dois pas savoir lire. Il est temps que j'arrête.
La géopolitique, c'est pas ton truc.
Peut-être que j'ai mal compris moi aussi. Je sais pas. On pourra le reprendre ensemble et voir ce que chacun comprend. Mais là, on n'a pas le temps. Dans l'immédiat, on pourra le faire tout à l'heure. Merci Adrien en tout cas.
À demain.
À demain pour le Journal Moyen. Merci Jérôme. Bonne soirée.
Merci Jérôme.
T'as
fait une belle heure, Jérôme. Appelez Jacques Pradel pour retrouver Jérôme Rotten, s'il vous plaît.
Il était où, Jérôme?
Très belle heure, Jérôme. Bravo.
Je vous laisse la place.
Tu vas pas nous la facturer, celle-là, j'espère.
Voilà pour le Journal Moyen. On revient dans un instant pour la deuxième heure du meilleur de Team Duga. On reviendra sur l'incroyable talonnade de Karim Benzema en championnat en Espagne. On reviendra sur sa relation compliquée avec Didier Deschamps et sur le règlement de compte à Dijon entre Grégory Coupet et son ancien club, l'Olympique Lyonnais. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, le meilleur de Team Duga.